Bonjour Jean-Philippe Ballas.
Bonjour à tous.
Ce matin, vous nous parlez d'un destin.
Il s'appelait Jérôme Laronze et il était paysan. Un jeune éleveur bio de Saône-et-Loire. Un personnage un peu rebelle, fort en gueule, passionné, idéaliste, militant. Jérôme Laronze est mort le 20 mai 2017, tué lors d'une intervention de la gendarmerie au terme d'une longue fuite en avant. C'est Florence Aubenas, l'une des meilleures d'entre nous, qui signe cette série depuis le début de la semaine. Des épisodes publiés par Le Monde, allez les lire, vraiment. Ils sont disponibles sur le site, prenant, éclairant, sans fioritures. L'histoire commence dans la ferme familiale, les Sonneaux. Jérôme Laronze a pris la suite de ses parents parce qu'il a envie, c'est ce qu'il dit à ses sœurs. Mais attention, il ne veut pas faire dans le traditionnel, non, il a plein d'idées et plein de visions. Le problème, c'est que manifestement, avec son troupeau, il ne respecte pas les normes sanitaires ou administratives. D'autres éleveurs s'inquiètent, signalent son cas. Commencent alors les contrôles. Contrôle. En agriculture, prononcer ce mot revient à jeter un sort, écrit Florence Aubenas. Comme une trappe qui s'ouvre, projetée dans une autre dimension, un labyrinthe de formulaires, de clauses, d'impératifs. Le côté humiliant aussi, quand les inspecteurs débarquent. Peu à peu, le type expansif devient taciturne. Jérôme Laronze, révolté, qui se perd, qui ne veut plus des mains tendues, mais dont les bêtes sont dans un état pitoyable. Un éleveur dépassé par les règlements, le récit d'une chute, dans cette ferme qu'il décrivait lui-même comme son temple et sa tombe. Jérôme Laronze, un destin de paysan, signé Florence Aubenas, c'est-à-dire dans Le Monde.
Du destin au recueillement.
Oui, parce qu'il aime bien venir ici, un peu hors du temps, au pied des buildings. Nous voici à New York, c'est la croix qui vous emmène au sud de Manhattan, le mémorial du 11 septembre. À l'approche des commémorations, 20 ans après les attentats, vous êtes en compagnie de Paul Remenschneider, qui vous montre l'endroit où est gravé le nom de son oncle, Christopher, celui qu'il considérait comme son frère. Christopher travaillait dans l'une des tours jumelles. Alors je viens régulièrement, raconte Paul, pour lui parler, lui demander conseil, savoir comment il va. Paul qui pense parfois aux derniers instants de vie de son oncle, je veux croire qu'il a soutenu les gens autour de lui jusqu'au bout. Autre moment de spiritualité, plus près de chez nous, soyez les bienvenus à l'abbaye de la Joie Notre-Dame. Nous sommes tout près de la forêt de Brocéliande, au milieu des terres bretonnes, à Campénéac, dans le Morbihan. C'est sœur Marie-Louise qui vous accueille, comme elle le fait de plus en plus chaque été, pour celles et ceux qui voudraient sortir du monde quelque temps. Oui, sortir du monde. Les paroles d'Alix, cette jeune femme qui témoigne ce matin dans les colonnes de Ouest-France, une adepte de ses retraites spirituelles. On compte ici une vingtaine de pensionnaires, dont Magali. Alors pour elle, en revanche, c'est la première fois. Pas vraiment habituée aux cérémonies religieuses, elle le confesse. Venue surtout pour le calme des lieux, cette dimension humaine, loin d'une actualité difficile, dit-elle.
Et c'est ce qu'on se dit quand on regarde la une de Libération ce matin.
C'est vrai qu'elle est terrifiante, cette une. 1, 2, 3, 4, je compte au moins une douzaine de corps emballés dans des sacs de plastique blanc dans une pièce sans fenêtre. C'est la photo d'une morgue qui déborde. Nous voici en Guadeloupe, le désastre du Covid et la mort partout. Reportage à l'hôpital de Pointe-à-Pitre qui vous dit la détresse d'un interne. L'autre jour, on avait 30 patients qui attendaient pour entrer en réa. 30 pour deux places disponibles. Quand c'est comme ça, on prend qui ? Un mélange de désarroi et de solidarité malgré tout. Solidarité face au brasier. La première page de la Marseillaise ce matin pour vous parler cette fois des pompiers venus de toute la France prêter main forte à leurs camarades du Var. Pourquoi la Terre brûle ? C'est la une du Figaro ce matin. Sur fond de dérèglement climatique, la planète est entrée dans l'ère des méga-feux, vous prévient le site du Monde. Et la solidarité, encore décidément, alors que la Provence vous raconte les enfants sacrifiés de Marseille après la mort d'un ado de 14 ans d'une rafale de Kalachnikov. Nous partons dans une autre cité, à Rouen, quartier Gramont, dans les pages de Paris-Normandie. Avec ceux qui se présentent en rigolant comme les quatre fantastiques. Ils s'appellent Kalilou, Youssef, Mohamed et Lamine. Ils ont une vingtaine d'années et sont les médiateurs de la dernière chance, vous dit le journal. Là-bas aussi, un ado a été tué il y a quelques semaines. Et il n'y avait pas beaucoup de volontaires pour tenter de renouer le contact avec les jeunes du quartier. Sauf que pour nous, c'est un devoir, répond Lamine, parce qu'on vient de là, nous aussi. Et tant pis pour ceux qui pensent qu'un médiateur, c'est bien gentil, mais ça ne sert à rien contre la violence. Les quatre fantastiques se mêlent aux attroupements pour faire baisser la tension et rassurer les mamans, disent-ils. Leur formule magique tient en quelques mots, les muscles, c'est dans la tête. Un principe que ne renierait pas Didier Deschamps. Alors pourquoi lui ? Parce qu'il est à la une de l'équipe ce matin. Et ça faisait un petit moment qu'il n'avait pas pris la parole, le sélectionneur des Bleus, précisément depuis le fiasco de l'Euro et cette défaite, j'ai encore du mal à le dire, cette défaite face à la Suisse. Ça ne devait pas nous arriver, reconnaît Deschamps, qui n'élude ni les erreurs ni les tensions, mais qui fait rempart surtout. Je suis le seul responsable, dit-il, parce que les victoires appartiennent souvent aux joueurs et les défaites souvent aux entraîneurs. Je vis très bien avec ça. Philosophe donc, Didier Deschamps, et insubmersible. Personne ne pourra me faire perdre ma sérénité.
Et allez, tiens, Jean-Philippe, vous terminez avec des majorettes.
Bah oui, parce que je les croyais disparues et que j'en ai retrouvé ce matin dans le Sud-Ouest, comme tout droit sorti des années 60-70, des majorettes. Elles s'appellent les Roses Bleues en folie et viennent de Dordogne. C'est Karine qui a monté la section, fille de majorette et majorette elle-même, adepte du dos bien droit, des genoux bien relevés et du bâton parfaitement maîtrisé. En croisade aussi contre les stéréotypes. Parce qu'il y a des garçons aussi dans la troupe, figurez-vous. Ah oui. Oui, même qui sont plutôt doués. Et si l'on peut éventuellement ouvrir le débat sur les couleurs chamarrées des tenues, bon, on aime surtout l'ambiance entre ces majorettes de toutes les tailles, de tous les âges, de 5 à 55 ans, comme les filles d'une même famille. Et puis bon, essayez de lancer un bâton avec précision, vous verrez. C'est pas si ringard que ça.
Non, puis c'est pas facile. Merci Jean-Philippe Ballas. France Inter.